Les souvenirs du vieux sergent. Il est midi et l'on est en juillet. Dans la salle basse où les soldats attendent leur tour de faction sous les ordres du vieux sergent Romillard, la chaleur est étouffante. En vain, de temps en temps, l'un des hommes va-t-il remplir la cruche à la fontaine voisine pour en arroser les dalles brûlantes. Il semble que l'eau se transforme en vapeur. Les mouches bourdonnent dans la vive clarté du soleil qui entre par la fenêtre dépourvue de volets, et les moustiques, se joignant à ce concert, harcèlent les malheureux troupiers qui, étendus sur la planche ou accoudés sur la lourde table, essaient vainement de dormir. Au moins, s'il était possible d'ôter l'épaisse tunique, l'incommode fourniment. Mais la consigne n'autorise pas même un tour de moins à la cravate. Le sergent Romillard, un briscard à trois chevrons, permet à peine que l'on ôte son shako et, avec lui, il n'y a pas à plaisanter. Les plus érudits dans le corps de garde, j'entends ceux qui savent lire, essaient de tuer le temps en parcourant la saine littérature que le gouvernement offre en pâture à leurs loisirs. On trouvait il y a quelques années dans presque tous les corps de garde un petit assortiment d'ouvrages soigneusement examinés par l'autorité militaire. La plupart sortaient de la célèbre librairie Marne de Tours. Voici le titre de ces ouvrages remarquables. « La couronne de Marie, histoire véritable »,« Le martyr de Saint-Maximin » ou encore « L'histoire de Saint-Louis, roi de France ». Mais au bâillement prolongé des lecteurs, il est aisé de voir que cette saine littérature les intéresse médiocrement. Le caporal Tarot, un artiste, se récrée en dessinant sur la couverture de l'un de ses ouvrages un profil. On y reconnaît le vieux sergent lui-même, avec ses moustaches et sa barbiche à la vieille garde. Mais le portrait n'est pas flatté, c'est du moins ce que semble penser l'un des malins de l'escouade qui regarde le dessin par-dessus l'épaule du caporal. Peu sensible aux beautés de la littérature et à celles de l'esthétique, l'un des soldats, un Parisien à la voix flûtée, s'adonne au plaisir de la musique. Il a tiré de sa poche une feuille de chanson, usée et salie au pli, et fredonne quelques airs. Mais il fait si chaud que la voix lui manque, et il ne tarde pas à se taire, au grand contentement de ceux qui l'empêchent de sommeiller. L'heure de relever le factionnaire a sonné. Celui dont le tour est venu saute à bas de la planche, essayant de secouer sa torpeur et de remettre en ordre les plis de sa tunique. Il décroche son fusil et sort, précédé du caporal. Quelques minutes se passent, le caporal revient, accompagné du soldat qu'il a relevé de sa faction. « Te voilà, Manivet !» s'écrie le Parisien railleur, tandis que l'homme se décharge de son sac et de son fusil. « Je te croyais fondu dans ta guérite !» Manivet ne répond pas, mais saisissant la cruche, il appuie le doigt sur le goulot et laisse tomber dans son gosier une lampée rafraîchissante. « Tu vas te griser !» crie le Parisien. Pendant ce temps, le vieux sergent est demeuré impassible tout près de la table. Un vrai type, ce vieux sergent. Figure bronzée, gravée de la petite vérole, avec de petits yeux qui percent comme des vrilles, et un grand nez, au-dessous duquel sa moustache et son impériale font l'effet d'un point d'orgue. « Berthaud, dit-il au Parisien, quand le soldat eut fini de boire, prenez la cruche et allez l'emplir, ça vous apprendra à vous moquer des camarades. » Berthaud sort au milieu d'un rire général. Manivet, désaltéré, s'assied près de la table et tire un livre de sa poche. « C'est vrai qu'il faisait chaud, mais tout de même, j'ai eu de la chance. Figurez-vous qu'une dame s'est approchée de moi. »« Pour te prêter son éventail ?» interrompt l'un des troupiers. « Était-elle jeune ?» demanda l'incorrigible Parisien qui vient de rentrer sa cruche à la main. « Laissez-moi donc parler, saperlotte. Cette dame m'a fait un cadeau d'un petit livre. Tenez qu'elle m'a dit, ça vous distraira. Je n'ai pas eu le temps de dire merci, qu'elle était déjà partie. » Le sergent Romillard a relevé la tête. « Jeune soldat, dit-il, vous connaissez la théorie ?»« Un peu, sergent. »« Et vous ne savez pas qu'un militaire en faction ne doit ni se laisser approcher, ni recevoir quoi que ce soit, ni rien dire à personne, sinon à l'officier de ronde ou au chef de poste. »« Mais, sergent, soldat Manivet, vous aurez 2 jours de salle de police. »« Attrape, mon vieux, dit le malicieux Parisien. » Ça t'apprendra à emprunter l'éventail des dames quand tu as trop chaud en faction. le sergent avait tiré son calepin et de sa meilleure écriture y écrivait la mention suivante. 2 jours de salle de police aux soldats manivés pour avoir, étant en faction, reçu un cadeau d'un civil. Comme il répétait à demi-voix ce qu'il venait d'écrire, le caporal se permit une observation. « Mais excusez-moi, sergent, mais ce n'est pas un civil, puisqu'il s'agit d'une dame. »« Une civile, alors ?» souffla le Parisien. Le sergent regarda fixement Berthaud, qui tourna le dos prudemment. Puis, considérant de nouveau son chef-d'œuvre, il ferma son calepin et le remit dans sa poche. Manivet, en colère, eut volontiers jeté son livre par la fenêtre, mais les camarades, curieux de voir quel ouvrage on lui avait donné, l'en empêchèrent. « Fais voir ça, » dit Berthaud, « c'est peut-être des chansons. »« Ou un roman, » dit le caporal, « ça serait fameux pour nous faire passer l'après-midi. » »« Oui, un roman à la mode de celui-là, La couronne de Marie, de quoi nous abrutir un peu plus si nous ne l'étions pas assez. »« Juste, » s'écria le Parisien. « Le Nouveau Testament de notre Seigneur Jésus-Christ. En voilà une attrape. Pour sûrement vieux, ce n'était pas la peine de te faire mettre au bloc pour si peu. » Le bloc, dont l'argot des casernes, signifie la salle de punition. « Un testament, » dit l'un des militaires illettrés. « C'est peut-être un héritage que cette dame va te laisser. » Tout le monde rit de la plaisanterie. « Allons, tiens, voilà ton livre de messe. Tu liras ça pour te rendre sage dimanche, à la salle de police. » Manivet, plus furieux que jamais, allait décidément jeter le livre au milieu de la rue. Cette fois, le sergent l'en empêcha. « Qu'est-ce que vous dites donc, vous, Berthaud? Vous parlez de ce livre-là comme si vous l'aviez lu? Moi, jamais. Alors, pourquoi dites-vous que c'est un livre de messe ?» « Ben, ça se voit rien qu'à la couverture. Ça parle de notre Seigneur Jésus-Christ. »« Ah non, vous n'êtes pas si malin que vous en avez l'air. Ce livre-là, jeunes gens, vaut la peine qu'on le regarde. Je ne crois pas qu'il y ait un autre dans le monde qui vaille autant que lui. »« Ah, pour ça, sergent, vous me permettrez de ne pas être de votre avis. J'aimerais mieux un livre de chansons. »« Ou un roman de Paul de Kock, » insinua le caporal. « Tout cela prouve que vous êtes des têtes sans cervelle, » dit le vieux sergent. « Je voudrais bien savoir à quoi vous servirez vos chansons et vos histoires si vous étiez sur le point de passer l'arme à gauche. » À ce mot, tout le monde devint sérieux. On savait que Roumillard avait fait la campagne de 1870 et qu'il avait vu la mort de près. Sa médaille en faisait foi. On ne pouvait donc le supposer poltron, ni faire le brave devant lui. « Pour sûr, c'est un mauvais quart d'heure, » dit Berthaud. « Mais je ne vois pas comment ce petit livre nous le ferait passer plus agréablement. Ma foi, quand il faut mourir, tout le monde fait la grimace, aussi bien les cagots que les autres. »« Vous avez raison, » répondit le sergent. « Mais ça dépend de ce que vous entendez par cagot. Moi, j'ai connu un homme qui serait mort comme un peureux et qui a trépassé en brave, rien que pour avoir eu ce petit livre-là dans la poche. » « Comptez-nous ça, sergent !» s'écria le caporal Tarot, toujours avide d'histoire. Tous les soldats se rapprochèrent de la table, et le vieux Roumillard, trop ému par ses souvenirs pour être flatté de l'attention qu'on lui prêtait, commença ainsi son récit. « Nous étions à Paris pendant le siège. J'étais caporal alors, et j'avais dans mon escouade un petit blondin, un Lyonnais qui n'avait que 18 ans. C'était, comme on dit, une tête brûlée. Il s'était engagé pour la durée de la guerre. Il se battait bien, rigolait toujours, il était le bout en train de la compagnie. Nous étions enfermés depuis quelques semaines déjà, et on était réduits à la viande de cheval. On ne recevait plus de nouvelles de la province, et chacun, même les plus âgés, commençait à trouver le temps long. On a toujours au pays un père ou une mère, ou peut-être bien une promise. Et quand on ne sait pas ce qu'ils deviennent, quand on pense que l'ennemi est peut-être au village, qu'il dévalise à 7 heures votre maison, sans compter les mauvais traitements, vous comprenez, ce n'est pas gai. Joanny le Lyonnais ne se mettait pas en peine de ça. « Jamais les Prussiens ne seront à la Croix-Rousse, » disait-il. « Les canuts sauront bien les empêcher d'y monter. Et puis, vive la joie, ça ne sert à rien de se faire du mauvais sang. » Et il mangeait sa viande de cheval comme si ça avait été du poulet, quand même elle fut parfois bien dure. Un jour, nous fûmes de sortie. Nous étions campés à la barrière du trône et nous devions attaquer en sortant par la porte de Vincennes. Le Lyonnais aimait surtout ces jours-là. On aurait dit qu'il était enfant de la balle tant il était content de faire le coup de feu. « Allons ça, boulotte !» dit-il en se frottant les mains quand nous reçûmes l'ordre de marcher. C'était le soir. Nous devions partir au point du jour. Je ne vous raconterai pas les mouvements. Il faudrait que vous connussiez la localité. Nous étions dans le bois de Vincennes. Les ennemis étaient de l'autre côté du bois. Ils arrivaient sur nous par Saint-Maur. Leurs éclaireurs étaient à 200 mètres de nous, tout au plus. On s'était mis en ordre dispersé et chacun s'avançait en rampant. Moi, j'étais derrière mon escouade, commandant en avant ou en retraite, selon que les officiers nous le disaient. La fusillade avait déjà commencé. À travers les éclaircies du bois, on voyait briller là-bas des casques pointus. De temps en temps, Joanny en visait un qui se découvrait plus que les autres, et comme il était bon tireur, il manquait rarement son coup. « Un de moins !» disait-il en rechargeant son chasse-peau. Nous avancions toujours, et comme notre fusillade était bien nourrie, il était évident que l'ennemi se repliait. Ses batteries, à une grande distance, faisaient beaucoup de bruit, mais ne nous atteignaient pas, protégés que nous étions par l'épaisseur du bois. « À la baïonnette !» crièrent alors les officiers. Nous nous relevâmes tous, prêts à nous élancer et mettant rapidement baïonnette au canon. « J'en embroche une douzaine !» cria Joanny en s'élançant le premier. Il n'eut pas le temps d'avancer, car à peine avait-il dit cela qu'un coup de feu l'atteignit. Il tomba la face en avant et son fusil roula loin de lui. Comme je marchais à quelques pas en arrière de la ligne, je vis tomber Joanny. Les autres étaient partis. Moi, je ne pouvais m'éloigner sans voir si le camarade était mort ou seulement blessé. Car j'étais comme les autres. J'aimais beaucoup ce bout en train. Il n'avait que 18 ans. Moi, j'avais 10 ans de plus que lui. Au régiment, c'est comme chez les civils 30 ans de différence. Je me sentais un peu comme son caporal et son ancien, le père de ce gamin-là. Je m'approchai donc pour le relever. Je vis tout de suite qu'il n'était pas mort, car il plaignait terriblement. Je le plaçai avec toutes les précautions possibles au pied d'un arbre sur la mousse. Il était blessé à la poitrine. La balle avait traversé de part en part. Il y avait un peu de sang, mais la blessure était mortelle. Il faisait un peu froid. Je le couvris avec ma capote. J'avais de l'eau de vie dans ma gourde. Je lui en fis avaler une gorgée. Il ne tarda pas à ouvrir les yeux et me regarda d'abord d'un air étonné. « Allons, Joanny, lui dis-je. Te voilà blessé, mais ce n'est pas une affaire. Quand les camarades passeront, je te ferai porter à l'ambulance. Du courage, mon vieux. Tu sais bien qu'il ne faut pas se faire du mauvais sang. » Mais Joanny secoua la tête. « Merci, caporal, me répondit-il d'une voix si basse qu'elle me rendit tout chose. C'est pas la peine de me faire porter à l'ambulance. Mon affaire est réglée. Je sens ça. » Qu'est-ce que je pouvais lui répondre? On voyait bien qu'il avait raison, et quant à lui faire croire le contraire, j'ai toujours répugné à tromper les gens qui vont mourir. « Ce n'est peut-être pas sûr, camarade, lui dis-je. Il ne faut jamais désespérer. Mais dans tous les cas, si je puis te rendre un service, tu sais, je suis à ta disposition. » « Les autres sont loin, et ma foi, tant pis, ils feront l'affaire sans moi, je te tiendrai compagnie. »« Vous êtes un brave homme, caporal. Oui, restez avec moi, ne me laissez pas seul. Voyez-vous, ajouta-t-il plus bas encore, si ce n'était pas à vous, je ne le dirais pas. J'ai peur de mourir. »« Pauvre enfant, lui dis-je, ça se comprend de reste. Un joyeux compagnon comme toi, à 18 ans, c'est dur. » Je n'étais pas très fort, vous le voyez, sur le chapitre des consolations. Non, ce n'est pas ça, dit Joanny. J'ai peur à présent, mais j'aurai aussi peur dans 50 ans d'ici. Caporal, croyez-vous en Dieu? Parbleu, que je répondis en me signant, qui est-ce qui n'y croit pas? Croyez-vous qu'il soit juste? Certainement qu'il l'est. Alors je suis perdu, dit le pauvre garçon. Écoutez, caporal. J'ai abandonné ma mère qui est infirme et ne vivait que de mon travail pour m'engager. Avant ça, je lui ai fait toutes les peines du monde. J'ai été élevé dans la religion, mais depuis 3 ou 4 ans, je m'en suis toujours moqué. Est-ce que je croyais mourir si tôt? Et voilà qu'il faut partir. Pour quel endroit? J'en sais rien, mais j'ai peur. À cet endroit du récit, Berthaud était devenu sérieux, presque pâle. On eût dit que cette histoire ressemblait à la sienne. « Moi, continua le sergent, je n'avais rien à lui dire, seulement je pleurais. Ça me faisait mal au cœur de voir cette jeunesse mourir comme ça, et je me serais donné des coups de poing pour être si bête que de ne pas trouver un mot de consolation à lui dire. « Caporal, me dit Joanny, sa voix faiblissait toujours. Prenez dans mon sac un petit livre. C'est l'Évangile, le cadeau de ma mère. Lisez-moi quelque chose. Au moins, si je suis perdu, je ne serai pas mort comme un païen. » Je tirai le livre et je l'ouvris. « Bon, me disais-je en moi-même, comment vais-je lire ça? Tous les livres de prière sont en latin et je ne saurais jamais m'en tirer. » Heureusement, le livre était en français, le pareil de celui-là. Vers le milieu, il s'ouvrait naturellement parce qu'il y avait une corne au feuillet. C'est une marque que probablement la mère avait faite. Je lus à cette page-là. Le sergent avait pris le Nouveau Testament et s'était mis laborieusement à chercher. Il ne réussissait pas à trouver l'endroit. « Saint-Luc, disait-il, c'est pourtant ça. Mais c'est long, Saint-Luc. Ah, je me rappelle, il y avait un X et un V en haut de la page. Cherchez donc ça vous, Tarot. » Le caporal Tarot, plus habile que le vieux sergent, n'eut pas de peine à trouver le chapitre 15 et commença à lire la parabole de la brebis perdue et celle de l'enfant prodigue. Tout le monde réuni écoutait avec attention. Le petit parisien ne paraissait pas le moins intéressé. Quand j'eus fini cette lecture, reprit Romillard, je regardai Joanny. Il n'avait pas bougé de tout le temps, et maintenant il avait les yeux fermés. Si sa respiration n'eût prouvé qu'il vivait encore, je l'aurais cru mort. Sa figure était étrange à voir. Je ne suis pas fort pour les comparaisons, mais ça me faisait penser à ces moments où l'on ne sait pas si le temps va se couvrir ou se mettre au beau, quand les nuages vont et viennent dans le ciel jusqu'à ce que le vent les chasse tous à la fois. Tantôt il avait une expression pénible, agitée, son front se plissait, ses lèvres tremblaient. L'instant d'après, il avait l'air de réciter une prière, puis son visage s'éclaircissait. Je ne comprenais rien à tout cela. Je ne disais rien, ne voulant pas le troubler dans ses pensées. « Caporal, me dit-il enfin, c'est le bon Dieu qui vous a fait lire cette histoire-là. » « C'est ta mère, lui dis-je. Il y avait une marque. » « C'est la même chose, répondit-il. Cette histoire est la mienne. Mais je n'ai plus peur de mourir parce que je retourne auprès de mon père. Lisez-moi donc les paroles de l'enfant prodigue. Je me lèverai et je m'anierai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. » « c'est ça, oui. » Je vais me lever, je vais y aller. Il me pardonnera puisque Jésus-Christ l'a dit. Oh, si je pouvais aussi recevoir le pardon de ma pauvre mère. Je lui écrirai pour toi, si tu veux. Tiens, voici mon carnet et un crayon. Dicte-moi, je lui enverrai ce que tu as à lui dire. » Ici, Romillard tira son calepin de sa poche et montra à ses auditeurs une page vieillie, écrite au crayon, où il lut lui-même ce qui suit. « Ma chère mère, « suis blessé et je vais mourir. C'est le caporal qui vous écrit pour moi. Je viens vous demander pardon de mon ingratitude, de ma méchanceté, et vous dire que le bon Dieu m'a pardonné. Je meurs tranquille. Mon seul regret, c'est de ne pas vous embrasser. Je vous retrouverai là-haut. Pardon, ma bonne mère, et adieu. Joanny. » Voici la lettre que me dicta Joanny et que j'ai recopiée à la plume pour l'envoyer à sa mère. « Vous lui enverrez aussi mon évangile, » me dit-il quand j'eus fini. Sa voix était devenue tellement faible que je l'entendais à peine. Je lui fis prendre encore un peu d'eau de vie. Tout à coup, il me prit par le bras. « Caporal, » cria-t-il, « aidez-moi à me lever. Je vois la porte ouverte. Il faut que j'entre. Il faut que je retourne vers mon père. » Il laissa retomber sa tête sur mon épaule. Il était mort. Mais décidément, le beau temps avait eu le dessus et les nuages étaient partis, car jamais je n'ai vu un sourire plus beau que celui qui restait encore sur le visage de Joanny. Le récit du vieux sergent avait produit une impression profonde. Personne n'ouvrait la bouche dans le corps de garde. Seulement, on voyait le livre passer de main en main. Berthaud le Parisien le garda plus longtemps que les autres. Ce fut Romillard qui rompit le premier le silence. « Manivet, dit-il, en considération de ce que c'est un bon livre, je vous ôte vos deux jours, nonobstant que vous les aviez bien mérités. »